Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Alors, en selle sur un poney Apache pour une balade radiophonique de 25 minutes. Mais avant de rejoindre nos Apaches, on va commencer par prendre le cheval au mot. Et aujourd'hui, ça sera le mot pommeau. Alors, évidemment, quelle est la cavalière ou le cavalier qui n'a pas entendu au cours de ses premiers mois d'apprentissage de l'équitation, sa monitrice ou son moniteur lui donner l'indication suivante. Prends tes rênes dans la main droite, ton pommeau dans la main gauche, tire tes fesses vers l'avant de la selle et laisse descendre tes jambes. Alors, pommeau n'a pas pour origine, comme on pourrait le penser, le mot paume, la paume de la main. Il dérive en fait de mot latin qui se dit pomum et qui est en fait le fruit comestible d'un arbre, puis simplement au 5e siècle, le fruit du seul pommier, donc la pomme du pommier. Alors on le voit écrit sous la forme pommelle au début du 11e siècle, puis pogno un siècle plus tard. À cette époque, il signifiait alors la boule fixée à l'extrémité de la poignée d'une épée ou encore celle qui protégeait le sommet d'un casque de soldat. On nommait également de ce nom la partie creuse du chandelier dans laquelle est fixée la bougie, mais aussi un ornement en forme de boule placé dans un tombeau, sur une tente ou sur le toit d'une habitation. Et il faut attendre en fait le milieu du 12e siècle pour voir le mot pommeau désigner la partie arrondie qui constitue l'avant de l'arçon d'une selle. Et dès le milieu du 19e siècle, on nommera ainsi la boule de bois dur ou de plomb située à l'extrémité supérieure d'une canne qui transformait cet instrument en arme de défense. Les gens se défendaient à coups de pommeau. Mais revenons à des choses plus pacifiques, donc à l'équitation. Il n'y a bien sûr aucune honte à utiliser le pommeau de sa selle en cas d'urgence. En effet, quand la situation devient chaude, quand un mouvement imprévu du cheval menace l'équilibre de celui qui le monte, le pommeau reste parfois la dernière bouée de sauvetage à laquelle le cavalier, même le plus expérimenté, a parfois recours. Providentielle petite pomme que l'on agrippe pour se rétablir sur sa selle et se retrouver en sécurité, bien assis sur le derrière de son derrière, selon l'expression consacrée, et les jambes descendues à l'abri du moindre pépin. Alors la semaine dernière, le messager du cheval vous a conté l'adolescence d'un Indien célèbre, évidemment, on a tous son nom dans la tête, c'est Geronimo, un Indien Chiricahua. Alors nous l'avions laissé alors qu'il s'apprêtait à mener avec deux amis de son âge un raid au Mexique. Et en organisant ce raid, Geronimo poursuit un double but, s'approprier des vivres, des chevaux, des mules et des bœufs en pillant les convois mexicains, mais également s'attaquer au village et créer l'insécurité dans les provinces nord du Mexique. Par cette action, son intention est de dissuader les troupes mexicaines d'entreprendre de nouvelles incursions de représailles en territoire américain. Geronimo est en effet persuadé que c'est le seul moyen qu'il a pour assurer la protection de sa tribu. Ce calcul s'avéra assez vite catastrophique pour les Apaches. Loin de démoraliser l'armée mexicaine, elle la poussera au contraire à intensifier ses actions de représailles et à intervenir préventivement, y compris sur le territoire américain, avec l'accord tacite du gouvernement des États-Unis. Là, nous mettons le doigt sur une incompréhension majeure que les Apaches avaient de l'organisation politique et militaire des États blancs. Pour Geronimo et les siens, s'attaquer à un village n'est rien d'autre que de s'attaquer à une simple tribu. Et en le faisant, les Apaches n'imaginent pas qu'ils s'attaquent en fait à un État dans sa totalité et que la réaction de ce dernier sera évidemment massive et surtout impitoyable. Et pire, sans le savoir, cette façon de faire donne des arguments à tous ceux qui militent pour une éradication pure et simple des Indiens afin d'ouvrir de nouveaux territoires à la colonisation, massivement stimulée, on s'en souvient, par la découverte de riches filons d'or dans le jeune État du Nouveau-Mexique. Dans les faits, l'Indien est donc devenu un gêneur, une entrave à la prospection et à la colonisation de ces nouveaux territoires. La perception qu'en ont aussi bien les autorités mexicaines qu'américaines montre bien la mentalité qui a cours à cette époque. On parle ainsi de la difficulté à domestiquer, j'ai bien dit domestiquer, les populations indiennes. Alors le gouvernement des États-Unis désigne plusieurs généraux vainqueurs de la guerre de sécession pour mener des opérations militaires contre les Indiens. L'un de ceux-ci, le général William Sherman, est particulièrement déterminé. Il déclare, alors je le cite, « Nous devons répondre aux Indiens avec une ardeur agressive, même s'il faut aller jusqu'à les exterminer. » c'est quand même un petit peu fort. Il n'y a pas d'autre solution pour aller jusqu'à la racine du problème. Ça, effectivement, quand on coupe l'arbre, c'est sûr qu'on n'a plus de problème de risquer de se prendre une branche sur la tête. Et dans une lettre qu'il a écrite à son frère sénateur de l'Ohio, il indique « Plus nous en tuerons, toujours ce même Sherman, plus nous en tuerons cette année, moins nous en aurons à tuer l'année prochaine, car plus je vois ces Indiens et plus je suis convaincu qu'ils doivent tous être tués ou maintenus dans un état d'indigence. » Difficile d'être plus clair. Alors un collègue de Sherman, qui s'appelle Philip Sheridan, n'est pas en reste. Un général aussi. Un jour qu'il reçoit en territoire indien un Comanche du nom de Tourterelle, qui lui assure avec humilité être un bon Indien, Sheridan a cette réplique cinglante. « Les seuls bons Indiens que je connaisse sont les Indiens morts. » Alors l'économie Apache repose pour une grande part sur des actions de rapine à l'encontre d'autres tribus avec lesquelles la paix n'a pas été conclue. Et contrairement à d'autres nations indiennes, les Apaches organisent ces raids en petites bandes autonomes de 3 ou 4 hommes sous la conduite d'un guerrier expérimenté en qui ils ont confiance. Aucune obligation. Chacun est libre de participer ou non à ces raids. Le but, s'emparer de vivres et de chevaux. Et ces expéditions, qui peuvent durer une dizaine de jours, sont organisées généralement au cours de l'été ou de l'automne. L'hiver, en effet, est glacial au pied des montagnes rocheuses et les chutes de neige importantes interdisent les longs déplacements. La raison, les Mexicains et les Américains l'ont bien compris, c'est ainsi qu'ils mèneront des actions militaires d'envergure en hiver, avec la certitude de trouver les tribus rassemblées, très affaiblies par le manque de nourriture. La famine est en effet fréquente à cette période de l'année pour les Indiens. Alors pour y parer, Geronimo va organiser une quinzaine d'expéditions d'été et d'automne au Mexique en ciblant de préférence les villages. Ces raids se font généralement à pied car en raison de la nature aride et chaotique des pistes montagneuses empruntées, il considère que les chevaux sont plus une gêne qu'un avantage. Ces raids sont éprouvants, mais les Apaches ont été entraînés depuis leur enfance à les supporter. Et sur ce sujet, écoutons les conseils d'un père Apache qu'un père Apache donne à son fils. Alors il lui dit « Mon fils, tu dois savoir que personne ne t'aidera dans ce monde. C'est toi qui dois te préparer. Apprends à courir dans les montagnes, cela te rendra fort. Tu dois savoir que tu n'as pas d'amis, pas même ta sœur, ton père ou ta mère. Ce sont tes jambes qui sont tes amis. C'est ton cerveau qui est ton ami. Ce sont tes chevaux qui sont tes amis. Ce sont tes mains qui sont tes amis. C'est avec ça que tu dois te préparer. Un jour, et il continue, ton peuple peut avoir faim. C'est toi qui devras lui procurer à manger. Où que tu ailles, tu dois vaincre l'ennemi qui t'attaque avant qu'il ne franchisse la colline et qu'il attaque lui-même, c'est-à-dire la colline, c'est-à-dire les limites de la tribu, quoi. Alors tout le peuple parlera de toi, alors il n'y aura plus que toi. Puisque nous vivons de nos expéditions, tu dois t'entraîner à poursuivre l'ennemi, à lui tendre des embuscades et à lui donner la mort, parce que la mort de l'ennemi veut dire la vie pour les Apaches. Mais nous allons maintenant nous accorder une pause musicale avec Revolver, Let's Go.
Let go of all the things you wanted to know and all the faces you wanted to show. There's nothing more than what you are and where you go. Nothing more than what you see and how you feel. It doesn't make sense, it doesn't go away. Did you feel anything today? How do you explain all the sleepless nights? How do you explain all the fears you've got? Let go of all of them. Let go, my friend. Suddenly, the rain starts tapping on the window pane. The ringing in my ears slowly fading out. A drop of silence in an empty glass. And then I slip away into the night. But how can I explain? I'm going down memory lane. How long before you think I was alive? How long before I learn how to let go?
L'entraînement des jeunes Apaches est rude. D'abord, apprendre à courir. Un des tests utilisés consiste à parcourir en courant 8 km la bouche pleine d'eau sans en avaler ou en faire tomber une seule goutte. Savoir utiliser ses armes. Avant l'acquisition des armes à feu, les Apaches utilisaient, on sait, l'arc, la lance, l'âge de guerre et la fronde. La fronde, ça, ils s'en servaient beaucoup. Les enfants pratiquent la lutte, ils s'affrontent avec leur fronde donc et apprennent à éviter les pierres. Un entraînement dangereux. Geronimo nous confirme que les accidents, parfois mortels, n'étaient pas rares. Donc, c'était vraiment grandeur nature. Et ces premiers tests passés, les jeunes Apaches doivent encore se combattre entre eux avec des arcs et des flèches, pour de vrai, pas pour de faux. Et là encore, les accidents étaient fréquents. Alors, 1863, le gouvernement américain veut définitivement mater les tribus Apaches. Il propose au chef des Chiricahuas, Mangus Colorado, de venir signer un traité de paix. Voilà, il l'invite. Mangus Colorado accepte et se rend dans un fort qui s'appelle Fort Bowie, où il est assassiné par les soldats, tout simplement. Conjointement, l'armée américaine mène raid sur raid. Devant ce danger auquel les Indiens ne peuvent plus faire face, Geronimo et sa tribu décident d'aller s'installer au Mexique pour se mettre à l'abri. La situation semble s'apaiser. Geronimo et les siens décident de retourner aux États-Unis. Ils y sont rapidement rejoints par des éclaireurs de l'armée qui les convient à venir rencontrer des officiers dans une ville proche qui s'appelle San Carlos pour discuter d'un traité de paix. Geronimo et la quarantaine d'Apaches qui l'accompagnent acceptent le rendez-vous. À leur arrivée, ils sont interceptés par les soldats qui les désarment et les font immédiatement passer devant une cour martiale. Bon. Geronimo est condamné à la prison. Le procureur avait réclamé sa tête. Mais enfin, bon, il est condamné à la prison. Alors, avec sept autres Apaches, il y restera plusieurs mois enchaîné. De là, il est transféré dans un fort qui s'appelle Fort Sill, d'où il s'échappe en 1867 pour regagner le Mexique. Là, il se tire au Mexique. Début septembre 1886, il est contacté par le général Nelson Miles qui lui déclare « Le président des États-Unis, dit ce général Miles, m'a envoyé pour vous parler. Il a entendu parler des difficultés que vous avez eues avec les hommes blancs et dit que si vous acceptez de faire un traité, il n'y aura plus de difficultés. Geronimo, si vous acceptez de faire ce traité, tout s'arrangera à la satisfaction générale. » Geronimo accepte. Alors le général Miles lui précise alors, ça c'est formidable, hein, un bon vendeur ce Miles. Vous serez, Geronimo, désormais sous la protection du gouvernement. Je vous construirai une maison, je vous donnerai beaucoup de terre. Vous aurez des hommes pour la travailler et vous-même n'aurez pas à travailler. Quand l'automne viendra, je vous enverrai des couvertures et des vêtements pour que vous n'ayez pas froid pendant l'hiver. Il y aura des forêts, de l'eau, des herbes en abondance dans la terre que je vous donnerai. Vous vivrez avec votre tribu et votre famille. Si vous acceptez ce traité, vous verrez votre famille dans 5 jours. Vous serez de nouveau réunis. Et Geronimo lui répond, bah écoutez, général, je quitterai le sentier de la guerre et vivrai en paix pour toujours. Et finalement, Geronimo et sa famille est déporté dans la réserve de Fort Steele, donc qui se trouve dans l'Oklahoma, où il meurt le 17 février 1909 et il a 80 ans. Alors, on va maintenant parler d'un cavalier célèbre que beaucoup considèrent comme celui qui a donné un souffle nouveau à l'équitation française pratiquée jusque-là, qui l'a en quelque sorte modernisé. Alors, évidemment, tout le monde a reconnu François Baucher. François Baucher est né le 16 juin 1796 à Versailles, 2 mois après la nomination du général Bonaparte comme chef de l'armée d'Italie. Sa famille est modeste. À 14 ans, il se rend en Italie pour suivre l'enseignement du maître Federico Mazzucchelli. Et cette première expérience lui permet de mettre au point sa première méthode, basée sur ce qu'on appelle aujourd'hui encore l'effet d'ensemble. C'est un principe qui n'avait pratiquement pas évolué depuis le 15e siècle et resté très utilisé dans les académies italienne. L'effet d'ensemble, alors je vais un peu expliquer ce que c'est, consiste à maintenir fermement le cheval sur son mors, donc en tendant bien les rênes, sans relâcher la main, tout en le poussant avec les jambes. Et pris entre ces deux ordres contradictoires, c'est-à-dire stop, avance, le cheval n'a plus d'autre choix que de sauter sur place, littéralement coincé entre la sévérité du mors et la violence des éperons. Suivant les principes de Federico Mazzucchelli, François Baucher professe, je le cite, qu'il faut annihiler toute volonté chez le cheval et la remplacer par celle du cavalier. Alors un petit peu plus tard, en 1834, François Baucher s'installe à Paris au manège Saint-Martin, qui est son manège. Il abandonne sa première méthode, qu'il juge peu efficace et dangereuse, parce qu'il a quand même beaucoup réfléchi, et donc il en élabore une seconde. Et celle-ci enseigne que l'impulsion donnée d'abord par l'action des jambes relayées par l'assiette, c'est-à-dire la capacité du cavalier à accompagner les mouvements et l'équilibre du cheval, cette impulsion donc doit immédiatement seulement après être reçue par la main qui peut alors la canaliser sans la bloquer et donc forcément la diriger. François Boucher recherche non plus la contrainte mais la légèreté qu'il résume dans sa célèbre phrase qui est la base de notre équitation moderne. Tout le monde la connaît, enfin les cavalières et les cavaliers, main sans jambe, jambe sans main. Si la jambe agit, la main est neutre, et si en revanche la main agit, la jambe est neutre. Il est victime en 1855, alors là c'est pas marrant, d'un accident. Le lustre monumental qui éclairait son manège se décroche et lui brise les jambes. Il passe les dernières années de sa vie en proie à de graves problèmes d'argent, mais surtout dans l'amertume d'avoir vu sa seconde méthode rejetée par l'armée. Là, il pensait vraiment que l'armée la prendrait et l'armée finalement refuse. Il meurt à Paris à l'âge de 77 ans et pourtant, l'histoire a fini par reconnaître que François Brochet avait été à l'origine du renouveau de l'équitation française après une éclipse qui avait duré près de 30 ans. Alors, le dicton de la semaine, il est d'un peuple qui s'appelle, ce sont les Kirghizes, et leur dicton dit, moi je l'aime bien celui-là, qui n'a pas de cheval, n'a pas de pied. Nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h, sur CFM Villefranche-de-Rouer 90.2. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Je vous conseille le site parce que il y a Le Messager du Cheval, mais il y a plein d'autres sujets. C'est à voir. Et en plus, quand on découvre la page d'accueil, on dit c'est pas mal quand même. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles. Et bien sûr, un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.
Les chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Non, 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 non. Hey, hey, marche droit et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Que tu as perdu, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Sur la route du sel, d'aigle mort à Rodez, en passant par Salmiège, du Languedoc au Rouergue, après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Millau, les Vézous, Salmiège, au milieu du sel, patrie de Béranger, de l'Andorre, capitale du Rouergue de Rodez. Entrez dans la légende de la route du sel. Entrez dans la légende de la